VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, multiplication des attaques des djihadistes, surtout dans la région de Mopti, dans le centre du pays, où une prise d'otage au bar restaurant Biblos à Sévaré a fait 13 morts le week-end dernier. 4 militaires maliens, 5 employés de l'ONU et 4 assaillants. Les djihadistes du prédicateur Amadou Koufa sont très actifs dans le secteur. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré, qui revient justement de la région de Mopti.
Au moment où les chefs militaires maliens échangeaient avec le premier ministre à Bamako, un véhicule de patrouille de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la localité de Djafarabe, région de Mopti. Bilan, 3 militaires tués. Général Didier Dako, adjoint au chef d'état-major général de l'armée du Mali.
Il y a eu l'attaque à Gourmaradous, il y en a eu un peu partout. Mais tout cela, je pourrais dire, ne nous inquiète pas parce que nous sommes dans des dispositions où nous pouvons contrer ces menaces. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous allons contrer ces menaces et des dispositions sont en cours. Il ne s'agit pas de déployer de nouvelles forces. Les dispositifs qui sont sur place sont déjà suffisants pour faire face à ces différentes menaces. Nous avons quand même quelques difficultés essentiellement en termes de renseignement.
Le mouvement de libération de Massina du prédicateur Amadou Koufa a revendiqué la prise d'otage du Biblos de Sévaré. Garba Yafa, commerçant à Sévaré.
Nous, on nous a fait croire que lui, il est mort avec l'intervention française en 2012, mais tout reste à croire que même s'il n'est pas mort, il y a l'ombre de lui qui plane parce que c'est la population de l'interpeller. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même pas qui est djihadiste. Il n'y a même pas de différence, les comportements.
Pour la jeunesse, la situation de sécurité actuelle dépasse le Mali, car il a fallu le concours des forces en présence pour venir à bout des terroristes de Sévaré, même si l'assaut final a été lancé par l'unité d'élite de la gendarmerie malienne. Boubacar Konipo, Antiquaire.
Maintenant, il faut se donner la main. Et le Mali, l'État malien et la communauté internationale. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment inquiétant. Il faudrait penser à changer un peu le mandat de la ministre. Parce que pour les Maliens, on ne peut pas comprendre qu'il y a la présence des militaires étrangers au Mali. Et après tout ça, là, les touristes font savoir ce qu'ils veulent au Mali. Ça, c'est incompréhensible.
Avec les multiples attaques, les autorités maliennes ont fait beaucoup de discours et de déclarations. Mais pour certaines populations, l'air n'est plus au discours. Bacho Sila de Dougoudougou Tour.
L'air n'est plus vraiment au discours. Qu'ils fassent des choses qui vont dissuader certainement l'ennemi. Il ne suffit plus aujourd'hui de condamner. Il faut prendre des actes concrets pour mener des actes. C'est-à-dire que toute personne qui est prise sur ce champ de bataille dans des conditions à perpétrer des attaques contre les populations, qu'ils soient vraiment sanctionnés de façon à être un exemple pour toute personne qui aura l'initiative de mener ces armes d'attaque contre nos forces de sécurité.
Les populations se disent prêtes à donner des informations aux forces de l'ordre, mais c'est à l'État d'équiper l'armée malienne avec des moyens adéquats. Kassim Traoré, de retour de Sévaré, VOA Afrique.
Nigeria, les États-Unis condamnent vivement l'attentat à la bombe qui a fait au moins 47 morts et une cinquantaine de blessés hier dans un marché du nord-est du pays, zone fréquemment visée par le groupe islamiste Boko Haram. Jacques Aristide.
L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabangari, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, à une heure de grande affluence. Une attaque qui portait la marque de Boko Haram, selon des témoins, qui indiquent que des membres de groupes d'autodéfense et des volontaires se sont rendus sur place et ont pu évacuer les victimes. L'attaque a eu lieu deux jours après que des membres de Boko Haram ont tué 4 personnes et en ont enlevé 5 autres au cours d'une embuscade sur une autoroute dans la zone. L'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces de l'ordre nigérianes ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009.
Afrique centrale maintenant, au Rwanda, le Parlement a donné son feu vert à un amendement de la Constitution permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat de 7 ans à la tête du pays. Mais toujours pas de décision de la part du chef de l'État rwandais dans ce domaine, Rachid Bouda.
Du 20 juillet au 10 août, les parlementaires ont mené des consultations populaires à travers le pays. Le but, sonder les Rwandais sur un amendement de l'article 101 de la Constitution. D'après les députés, plus de 3,7 millions de citoyens avaient déjà signé une pétition pour le maintien du président Kagame au pouvoir. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis avril 2000. Selon ses partisans, il est l'homme qui a mis fin au génocide des Tutsis et ramené la paix dans le pays. Pour l'heure, le président rwandais ne s'est pas prononcé sur une troisième candidature.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition ne mâche pas ses critiques après le tout dernier remaniement du gouvernement. Mais le nouveau ministre de la Communication, Thierry Mongala, rejette les allégations des opposants. Le point avec notre correspondant à Brazza, Nguela Ngoussou.
Pour l'opposant Clément Mirassa, ce nouveau gouvernement n'est plus qu'un regroupement du clan Sassou.
Tous les ministres qui disaient non au changement de constitution ont été sortis du gouvernement. Aucun jeune n'est rentré au gouvernement, aucun handicapé. Et il y a beaucoup moins de femmes, puisqu'il y a une femme qui est sortie. Elles étaient 4, il en reste 3. Maintenant, la grande constatation, c'est qu'il y a un tiers des ministres qui sont de l'ethnie du président Denis Sassou Nguesso. Et quand vous observez bien ce gouvernement, tous les ministères dits de souveraineté, ce sont les personnalités qui appartiennent à l'ethnie du président Sassou, ce qui est extrêmement grave.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En RDC, inquiétude au sujet de la disparition de Bienvenue Matumo Musangalusa, un militant citoyen membre du groupe Lucha, la lutte pour le changement, qui était dans le collimateur des services de renseignement congolais. Sa disparition intervient alors que deux autres membres de son groupe, dont Fred Bauma, attendent un procès qui va de report en report. Le compte-rendu de Juvin Kombe, un autre militant de Lucha, à Goma.
Oui, exactement. Depuis l'arrestation de Fred Bauma, c'était le 15 mars de cette année, il avait été interpellé parce qu'il faisait partie des membres de civils qui organisaient la dictativité où Fred Bauma, un militant de la Lucha, avait pris part. Comme Bienvenu et aussi membre de la Lucha, a aussi subi cette pression qui était faite par les services de l'intelligence de la RDC. Et il était aussi inquiété. Mais à un moment donné, on a arrêté ses poursuites, ce qui faisait que Bienvenu croit qu'il était en sécurité à Kinshasa. Et le samedi, subitement, nous avons été surpris de sa disparition.
Juvin Kombe, un membre de la Luge pour le changement. Et pour terminer, on a à Abidjan, Côte d'Ivoire, le Zouglou, une musique urbaine dans laquelle se reconnaissent plus de la moitié des Ivoiriens, à son temple appelé l'Internat, un espace de convivialité pour les férus de ce rythme, un espace où règne une ambiance endiablée avec toutes les musiques dérivées du Zouglou. Visite guidée avec Julien Anaki. Dynamo!
Magic System, groupe ivoirien mondialement connu, est le porte-étendard national de la musique Zouglou. Une musique urbaine née en 1990 dans une cité universitaire d'Abidjan. Le Zouglou découle d'une musique d'ambiance appelée Woyo, orchestrée par des percussions et des grelots, souvent le son de bouteilles en verre. Le phénomène Zouglou va connaître un recul dans les années 2000 avec l'arrivée dans le giron des musiques urbaines ivoiriennes du coupé décalé. Les adeptes des deux rythmes se regardent même en chiens de faïence. Dans cet environnement, Aimé Zébié, un inconditionnel du Zouglou, décide d'ouvrir en 2009 un espace appelé l'Internat consacré exclusivement à la musique Zouglou et dérivée.
Ce que le peuple pense en bas, hein, le Zouglou l'exprime. Hein, avec tout ce qui peut comporter l'ironie comme ça, la comédie, tout ça là, mais c'est que pas un humour, tout ça là. Mais une façon de dire, ça ne va pas bien, ça va. Hein, si ça ne va pas, ressaisis-toi, ça peut aller toujours. Les conseils que peut-être nos parents nous donnent, que peut-être qu'on ne comprend pas, le Zouglou essaie de retracer ça.
L'Internat, c'est une ambiance de folie tous les dimanches de 14h à 22h. Lieu de rencontre abidjanais de tous les férus du Zouglou.
Moi, selon la vie naître le Zouglou depuis les vieux temps jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, et ce qui m'amène tout le temps, tous les dimanches à l'Internat ici.
60 employés, une séquence Woyo, un peu d'humour et du live meuble les journées de l'Internat qui ne désemplit jamais. 2500 clients les dimanches, parmi lesquels beaucoup de jeunes filles.
À l'Internat, vraiment, c'est trop chic. Qui est un paradis sur la terre, quoi.
Des cadres et quelquefois des ambassadeurs. On peut le dire, l'Internat est devenu un espace touristique abidjanais. Julien Naki, Abidjan, VOA Afrique.
Et pour terminer, retour à la politique, le Premier ministre libyen Abdallah Altiné a promis hier soir de démissionner si le peuple l'exigeait. Déclaration faite lors d'une émission télévisée en rétraction à des détracteurs, mais son porte-parole a par la suite démenti qu'il s'agissait d'une démission officielle.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.